Chapitre 3. Ils sont devenus si amis que cela m'amuse, Yves, Chrysanthème et la petite Yuki. Je crois même que dans mon ménage, leur intimité est ce qui m'amuse le plus. C'est qu'ils font un contraste d'où résultent des situations imprévues et des choses impayables. Lui, apportant sa désinvolture de matelot et son accent de Bretagne dans cette frêle maisonnette de papier, à côté de ses mousmets aux manières précieuses, grand garçon, large, à voix brève et grave, entre deux toutes petites à voix d'oiseau qui le mènent à leur gré, le font manger avec des baguettes, lui apprennent le pigeon-vol japonais, et le triche et se dispute et se pâme de rire. Il est certain qu'ils se plaisent beaucoup, Chrysanthème et lui. Mais j'ai confiance toujours, et je ne me figure pas que cette petite épousée de hasard puisse jamais amener un trouble un peu sérieux entre ce frère et moi. Ma famille japonaise, très nombreuse et se produisant beaucoup, un grand élément de distraction pour les officiers du bord qui me visitent là-haut, surtout pour le Komadashi, Taksan Takai, enfin, l'ami d'une extrême hauteur. Une belle-mère charmante, tout à fait femme du monde, des petites belles-sœurs, des petites cousines et des tantes jeunes encore. J'ai même au second degré un cousin pauvre qui est Jin. On hésitait à m'en faire l'aveu de ce dernier, mais voici que pendant la présentation, nous avons échangé un sourire de connaissance. C'était 415. Sur ce pauvre 415, mes amis à bord font des gorges chaudes. Un surtout qui, moins que personne, aurait le droit de parler. Le petit Charles N., dont la belle-mère a été quelque chose comme concierge ou peu s'en faut, à la porte d'une pagode. Moi, qui fais grand cas de l'agilité et de la force, j'apprécie au contraire ce parent-là. Ses jambes, du reste, sont les meilleures d'un Nagasaki, et chaque fois que j'ai quelques courses pressées à faire, je prie Madame Prune d'envoyer en bas à la station des Jin retenir mon cousin. J'arrivais à Jijunji à l'improviste aujourd'hui par un midi brûlant. Au pied de notre escalier traînaient les socs de bois de chrysanthème et ses sandales de cuir verni. Chez nous, en haut, tout était ouvert avec des stores en bambou abaissés du côté du soleil. À travers leur tissu clair entrait l'air chaud et la lumière d'or. Cette fois, c'était des lotus que chrysanthème avait mis dans nos vases de bronze et mes yeux tombèrent dès l'entrée sur ses grands calices roses. Elle dormait, elle, étendue par terre, suivant l'habitude de son sommeil de sieste. Quelle forme à part ils ont toujours, ces bouquets arrangés par chrysanthème. Quelque chose de difficile à définir, une sveltesse japonaise, une grâce à prêter que nous ne saurions pas leur donner. Elle dormait à plat ventre sur les nattes, sa haute coiffure et ses épingles d'écailles faisant une saillie sur l'ensemble de son corps couché. La petite traîne de sa tunique prolongeait en queue sa personne délicate. Ses bras étaient étendus en croix, ses manches déployées comme des ailes, et sa longue guitare gisait à son côté. Elle avait un air de fée morte, ou bien encore elle ressemblait à quelque grande libellule bleue qui se serait abattue là et qu'on y aurait clouée. Madame Prune, qui était montée derrière moi, toujours empressée, officieuse, manifesta par geste des sentiments indignés en voyant cette réception insouciante de chrysanthème à son seigneur et maître, et s'avança pour la réveiller. « Mais oh, gardez-vous-en bien, bonne dame Prune, si vous saviez comme elle me plaît mieux ainsi !» J'avais laissé mes chaussures en bas, suivant l'usage, à côté des petites socques et des petites sandales, et j'entrais sur la pointe du pied, tout doucement, pour aller m'asseoir sous la véranda. Quel dommage que cette petite chrysanthème ne puisse pas toujours dormir. Elle est très décorative, présentée de cette manière, puis au moins elle ne m'ennuie pas. Peut-être, qui sait, si j'avais le moyen de mieux comprendre ce qui se passe dans sa tête et dans son cœur. Mais c'est curieux, depuis que j'habite avec elle, au lieu de pousser plus loin l'étude de cette langue japonaise, je l'ai négligée, tant j'ai senti l'impossibilité de m'y intéresser jamais. Assis sous ma véranda, je regardais à mes pieds les temples et les cimetières, et les bois, et les vertes montagnes, tout Nagasaki baigné de soleil. Les cigales faisaient leur bruit le plus strident, qui tremblait comme une fièvre de l'air. Tout cela était calme, lumineux et chaud. Eh bien, pourtant, pas assez à mon gré. Qu'y a-t-il donc de changé sur terre? Les midis brûlants d'été sont ceux que je retrouve dans mes souvenirs lointains. Ils avaient encore plus d'éclat, encore plus de soleil. Le bal, autrefois, me semblait plus puissant et plus terrible. On dirait que tout ceci n'est qu'une copie pâle de ce que j'ai connu dans mes premières années, une copie à laquelle quelque chose manque. Et tristement, je me demande à moi-même, la splendeur des étés, est-ce que vraiment ce n'est que cela? N'était-ce que cela ou bien y a-t-il une erreur de mes yeux? Et avec le temps, verrai-je ces choses pâlir encore? Derrière moi, une petite musique triste, triste à faire frissonner, et grêle, grêle autant que le chant des cigales, commença de se faire en sourdine, puis s'éleva, gémissante, comme la plainte mièvre de quelque âme japonaise en peine et en angoisse, dans l'air silencieux de midi. Chrysanthème et sa guitare qui s'éveillaient ensemble. Et il me plut que cette idée lui fût venue de me faire de la musique, me voyant là, au lieu de s'empresser à me dire bonjour. À aucun moment je ne me suis imposé la contrainte d'avoir l'air un peu épris d'elle, mais nos rapports deviennent froids de plus en plus, surtout quand nous sommes seuls. Aujourd'hui pourtant, je me retournai pour lui sourire, et de la main je lui fis signe. Allons, joue encore. Cela m'amuse d'écouter ta petite improvisation étrange. C'est singulier que la musique de ce peuple rieur puisse être si plaintive. Mais décidément, celle que fait Chrysanthème mérite d'être entendue. Où donc a-t-elle pris cela? Quels indicibles rêves, à jamais mystérieux pour moi, passent dans sa cervelle jaune quand elle joue chant de cette manière? Tout à coup, pam pam pam, on frappe trois fois d'un coup sec sur une marche de notre escalier, et dans l'ouverture de notre porte apparaît un imbécile en complet de drap gris qui nous fait la révérence. Entrez, entrez, monsieur Kangourou. Bon, comme vous arrivez à point, au moment où j'allais presque me monter l'imagination pour des choses japonaises. C'était une petite note de blanchissage que monsieur Kangourou désirait nous présenter respectueusement, avec un plongeon du haut du corps, une pose correcte des mains sur les genoux et un long sifflement de couleuvre. En continuant de suivre le chemin qui monte et passe devant chez nous, on trouve une dizaine de vieilles maisonnettes, encore quelques murs de jardin, puis plus rien que la montagne solitaire, les petits sentiers qui s'en vont vers les cimes à travers les plantations de thé, les buissons de camélias, les broussailles et les roches. Et ces montagnes, tout autour de Nagasaki, sont pleines de cimetières. Depuis des siècles et des siècles, on monte là des morts. Mais ces sépultures japonaises n'ont pas de tristesse, pas d'horreur. Il semble que chez ce peuple enfantin et léger, la mort même ne se prenne pas sérieusement. Les tombes sont des bouddhas de granit, assis dans des lotus ou des bornes funéraires avec des inscriptions d'or. Elles se tiennent groupées dans de petits enclos au milieu des bois ou sur des terrasses naturelles agréablement situées. On y arrive généralement par de longs escaliers de pierre tapissés de mousse, en passant de temps en temps sous quelqu'un de ces portiques sacrés dont la forme toujours la même est rude et simple, et qui sont une réduction de ceux des temples. Au-dessus de chez nous, Les tombes de la montagne sont si antiques qu'elles n'effraient pas même la nuit. C'est une région de cimetières abandonnés. Les morts qu'on avait cachés là-dessous se sont fondus dans la terre. Ces milliers de petites bordes grises, ces multitudes de vieux petits bouddhas rongés par le lichen, semblent ne plus être que l'attestation de séries d'existences antérieures aux nôtres et tout à fait perdues dans le recul mystérieux des temps. Les repas de chrysanthème sont une invraisemblable chose. Cela commence le matin, au réveil, par deux petits pruneaux verts des haies, confits dans du vinaigre et roulés dans de la poudre de sucre. Une tasse de thé complète ce déjeuner presque traditionnel au Japon, le même que l'on mange en bas chez Madame Prune et le même que l'on sert aux voyageurs dans les hôtelleries. Cela se continue dans le courant du jour par deux dînettes très drôlement ordonnées. De chez Madame Prune, où ces choses se cuisinent, on les lui monte sur un plateau de lac rouge, dans de microscopiques tasses à couvercle, un hachis de moineau, une crevette farcie, une algue en sauce, un bonbon salé, un piment sucré. À tout cela, Chrysanthème goûte du bord des lèvres, à l'aide de ses petites baguettes, en relevant le bout de ses doigts avec une grâce affectée. À chaque mets, elle fait une grimace, en laisse les trois quarts et s'essuie les ongles après avec horreur. Ses menus varient beaucoup, suivant l'inspiration de Madame Prune. Mais ce qui ne change jamais, ni chez nous ni ailleurs, ni au sud de l'Empire ni au nord, c'est le dessert et la façon de le manger. Après tant de petits plats pour rire, on apporte une cuve en bois cerclée de cuivre, une cuve énorme comme pour Gargantua et contenant jusqu'au bord du riz cuit à l'eau pure. Chrysanthème en remplit un très grand bol, quelquefois deux, quelquefois trois, en salit la blancheur neigeuse avec une sauce noire au poisson qui est contenue dans une fine burette bleue, brasse ces choses ensemble, porte le bol à ses lèvres et enfourne tout ce riz en le poussant avec ses deux baguettes jusqu'au fond de son gosier. Ensuite, on ramasse les petites tasses et les petits couvercles, les dernières miettes tombées sur ces nattes si blanches dont rien ne doit ternir jamais l'irréprochable honnêteté. La dinette est terminée. En bas, dans la ville, à un carrefour, une chanteuse des rues s'était installée. On se rassemblait pour l'entendre et nous nous étions arrêtés comme les autres, nous trois qui passions, Yves, Chrysanthème et moi. Toute jeune, un peu grasse, assez jolie, elle raclait sa guitare et chantait en roulant les yeux d'une manière féroce, comme un virtuose exécutant des difficultés. Elle baissait la tête, se rentrait le menton dans le cou pour tirer des notes plus creuses du fin fond de son corps. Elle arrivait à se faire une grosse voix rauque, une voix de vieux crapaud, une voix de ventriloque sortie je ne sais d'où, ce qui est la grande manière théâtrale, le dernier mot de l'art pour l'interprétation des morceaux tragiques. Yves lui jeta un regard indigné. « Oh, par exemple, dit-il, mais c'est la voix d'une... » Dans son étonnement, les mots lui manquaient. « C'est la voix d'un monstre !» Et il me regarda, presque épouvanté par cette petite anxiété de savoir ce que j'en pensais. D'ailleurs, il était de mauvaise humeur aujourd'hui, mon pauvre Yves, parce que j'avais obligé à sortir coiffé de certains chapeaux de paille, à bord très relevé qui ne lui plaît pas. « Mais il te va très bien, Yves, je t'assure. Oui, vous le dites, vous, il ressemble à un nid de pie, moi, je trouve. » Comme diversion à cette chanteuse et à ce chapeau, voici maintenant un cortège qui nous arrive du bout de la rue là-bas, quelque chose comme un enterrement. Des bonzes marchent en tête, vêtus de robes en gaze noire, un air de prêtre catholique. Le principal personnage du défilé, le mort, vient par derrière, assis dans une sorte de petit palanquin fermé, tout à fait gentil. Suivent une bande de mousmets, cachant leurs figures rieuses sous un semblant de voile, et portant dans des vases de forme sacrée les lotus artificiels à pétales d'argent qui sont de rigueur pour les funérailles. Puis de belles dames marchent après, minaudières, étouffant des envies de rire, sous des parasols où sont peints en couleurs gaies des papillons et des cigognes. Les voici tout près de nous. Il faut nous ranger pour leur faire place. Les chrysanthèmes, tout à coup, prend un air de circonstance. Yves se découvre, ôte son nid de pie. C'est pourtant vrai que c'est la mort qui passe. Moi qui oubliais, cela en avait si peu l'air. Le cortège va grimper bien haut au-dessus de Nagasaki, dans la verte montagne toute peuplée de tombes. Là, on déposera dans la terre cet infortuné bonhomme, son palanquin par-dessus lui et ses vases et ses fleurs en papier argenté. Enfin, au moins il sera dans un lieu agréable, ce pauvre mort, et jouira d'une vue charmante. On s'en reviendra, moitié riant, moitié pleurnichant. Demain, on n'y pensera plus. 4 août. La triomphante qui était sur Ade, presque au pied des collines où ma maison est perchée, entre aujourd'hui au bassin pour réparer ses flancs éraillés pendant le long blocus de Formose. Et me voici fort loin de chez moi à présent, obligé de traverser en canot toute la baie pour aller retrouver Chrysanthème, car ce bassin est situé sur la rive opposée à Nyūgenji. Il est creusé dans une petite vallée étroite et profonde. Toutes sortes de verdures se penchent au-dessus des bambous, des camélias, des arbres quelconques. Notre mâture, nos vergues, vues du pont, ont l'air d'être accrochées dans les branches. Cette situation d'un navire qui ne flotte plus donne à l'équipage la facilité de sortir clandestinement à n'importe quelle heure de la nuit, et nos matelots ont lié des relations avec toutes les petites filles des villages qui sont suspendues dans la montagne au-dessus de nous. Ce séjour, cette liberté trop grande, m'inquiète pour mon pauvre Yves, auquel ce pays de plaisir tourne un peu la tête. D'ailleurs, de plus en plus, je le crois amoureux de Chrysanthème. C'est grand dommage, vraiment, que ce sentiment-là ne me soit pas venu plus tôt à moi, puisque j'ai tant fait que de l'épouser. Je continue, malgré la distance plus grande, d'aller chaque jour à Nyūgenji. La nuit tombée, quand les 4 ménages amis du mien sont venus nous rejoindre, Yves aussi, et l'ami d'une surprenante hauteur, nous descendons en bande vers la ville, dégringolant aux lanternes par les escaliers et les rampes du vieux faubourg. Toujours pareil, cette promenade nocturne, avec des amusements semblables, même station devant les étalages baroques, même boisson sucrée, servie dans les mêmes jardinets. Mais notre bande est souvent très augmentée. D'abord, nous emmenons Yuki, que ses parents nous confient, puis 2 cousines de ma femme qui sont fort mignonnes, et enfin des amis, des petites invitées de 10 ou 12 ans quelquefois, fillettes de notre quartier envers lesquelles nos mousmets ont désiré se montrer polis. Oh, l'étonnante petite compagnie que nous traînons à notre suite dans les maisons de thé le soir. Les impayables minois, les piquets de fleurs drôlement plantés sur des têtes enfantines et comiques. On dirait d'un vrai pensionnat de mousmets en récréation de nuit sous notre surveillance. Yves nous accompagne lorsqu'il s'agit ensuite de remonter chez nous. Chrysanthème, poussant de gros soupirs d'enfant fatigué, s'arrêtant à chaque marche, s'appuyant à nos bras. Quand nous sommes en haut, il nous dit adieu, touche la main de Chrysanthème, puis redescend encore une fois par le versant qui mène au quai, au navire, et traverse la rade dans un sampan pour regagner la Triomphante. Nous, à l'aide d'une sorte d'anneau à secret, nous ouvrons la porte de notre jardin où les pots de fleurs de Madame Prune, alignés dans l'obscurité, répandent leur bonne odeur suave du soir. Nous traversons ce jardin au clair de lune ou des étoiles et nous montons chez nous. S'il est très tard, ce qui arrive quelquefois, nous trouvons en rentrant tous nos panneaux de bois tirés et fermés par les soins de Monsieur Sucre, précaution contre les voleurs, notre appartement clos comme une vraie chambre européenne. Il y a dans cette maison ainsi calfeutrée une étrange odeur mêlée à celle du musc et des lotus, une intime odeur de Japon, de race jaune, qui est montée du sol ou qui est sortie des boiseries antiques, presque une fétidité de fauve. Le temps de lait de gaz bleu nuit, disposé pour notre coucher, descend du plafond avec un air de vélum mystérieux. Le Bouddha adoré sourit toujours devant ces veilleuses qui brûlent. Quelques phalènes habituées du logis, qui dormaient dans le jour collées à notre plafond, tournoient maintenant, sous le nez du Dieu, autour des deux petites flammes grêles. Et sur le mur, plaqué, les pattes en étoiles, sommeillent quelques grosses araignées des jardins, qu'il ne faut pas tuer parce que c'est le soir. « Ouh !» fait Chrysanthème indigné en me la désignant du bout de son doigt. « Vite l'éventail consacré aux bêtes pour la chasser dehors. » Autour de nous règne un silence qui serre presque le cœur, après tous ces tapages joyeux de la ville et tous ces rires de mousmets qui viennent de finir. Un silence de campagne, un silence de village endormi. Le bruit de ces innombrables panneaux de bois que l'on tire et que l'on ferme au commencement de chaque nuit dans toutes les maisons japonaises est une des choses de ce pays qui me resteront dans la mémoire. De chez les voisins, par-dessus les jardinets verts, ces bruits nous arrivent les uns après les autres par séries, plus ou moins étouffés, plus ou moins lointains. Juste au-dessous de nous, ceux de Madame Prune roulent très mal, grincent, font tapage dans leurs rainures rusées. Les nôtres sont bruyants aussi, car la vieille case est sonore, et il faut en faire courir au moins 20 sur de longues glissières pour clore complètement l'espèce de halle ouverte que nous habitons. En général, c'est Chrysanthème qui se charge de ce soin de ménagère, peinant beaucoup, se pinçant les doigts souvent, et très malhabile avec ses mains trop petites qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Après vient sa toilette de nuit. Avec une certaine grâce, elle laisse tomber la robe du jour pour en mettre une plus simple, en toile bleue, qui a les mêmes manches pagodes, la même forme, moins la traîne, et qu'elle s'attache aux reins par une ceinture en mousseline de couleur assortie. La haute coiffure reste intacte, cela va sans dire, sauf les épingles qui sont dépiquées et couchent près de nous, dans une boîte en lac. Il y a la petite pipe d'argent, ensuite, qu'il faut fumer avant de s'endormir. C'est une des choses qui m'impatientent, mais qui doivent être subies. Chrysanthème, comme une gypsie, s'accroupit devant certaines boîtes carrées en bois rouge qui contient un petit pot à tabac, un petit fourneau de porcelaine avec des charbons toujours allumés et enfin un petit vase en bambou pour déposer la cendre et cracher la salive. En bas, la boîte à fumer de Madame Prune et ailleurs les boîtes à fumer de tous les Japonais et de toutes les Japonaises sont semblables, contiennent les mêmes choses, disposées de la même façon et partout, au milieu des appartements pauvres ou riches, traînent par terre. Le mot « pipe » bien trivial et surtout bien gros pour désigner ce mince tube d'argent tout droit, au bout duquel, dans un récipient microscopique, on met une seule pincée de tabac blond, haché plus menu que des fils de soie. Deux bouffées, trois au plus, cela dure à peine quelques secondes, et la pipe est finie. Ensuite, pam, 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 on frappe le tuyau très fort contre le rebord de la boîte à fumée pour faire tomber cette cendre qui ne veut jamais sortir. Et ce tapotage, qui s'entend partout, dans chaque maison, à n'importe quelle heure de la nuit ou du jour, drôle et rapide comme un grattement de singe, est au Japon un des bruits caractéristiques de la vie humaine. Anata, nomimase, toi aussi fume, dit Chrysanthème. Ayant rempli de nouveau la petite pipe agaçante, elle présente à mes lèvres, avec une révérence, le tube d'argent, et je n'ose pas refuser par courtoisie, mais c'est âcre, détestable. Maintenant, avant de m'étendre sous la moustiquaire bleu sombre, je vais rouvrir deux des panneaux du logis, l'un du côté du sentier désert, l'autre sur les jardins en terrasse, afin que l'air de la nuit puisse passer sur nous, au risque de nous amener d'autres hannetons attardés ou d'autres phalènes étourdies. Notre maison, tout en bois vieux et mince, vibre la nuit comme un grand violon sec. Les bruissements les plus légers y grandissent, y les figurent, y deviennent inquiétants. Sous la véranda, deux petites harpes éoliennes, suspendues, font au moindre souffle leur tintement de lames de verre, semblable au murmure harmonieux d'un ruisseau. Dehors, jusque dans les derniers lointains, les cigales continuent leur grande musique éternelle, et au-dessus de nous, sur le toit noir, on entend comme un galop de sorcières passer la bataille à mort des chats et des rats et des hiboux. Plus tard, aux dernières heures de la nuit, Chrysanthème ira fermer sournoisement ces panneaux que j'ai rouverts, quand soufflera certain vent plus frais qui monte jusqu'à nous de la mer et de la rade profonde avec l'extrême matin. Auparavant, elle se sera bien levée trois fois au moins pour fumer. Ayant bâillé à la manière des chattes, s'étant étirée, ayant contourné dans tous les sens ses petits bras d'ambre et ses toutes petites mains gracieuses, elle se redresse résolument, pousse des plaintes de réveil très enfantines et assez mignonnes, puis sort de la tente de gaz, remplit sa petite pipe et aspire deux ou trois bouffées de la chose âcre et déplaisante. Ensuite, pom 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 contre la boîte pour secouer la cendre. Dans la sonorité nocturne, cela fait un bruit terrible qui réveille Madame Prune, c'était fatal. Et voilà Madame Prune, prise d'une envie de fumer, elle aussi, absolument suggestionnée. Alors, à ce bruit d'en bas, répond d'en bas un autre pom 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 pom, tout à fait pareil, exaspérant et inévitable comme un écho. Plus joyeuses sont les musiques du matin, les coqs qui chantent, les panneaux de bois qui s'ouvrent dans le voisinage, ou le cri bizarre de quelques petits marchands de fruits parcourant dès l'aube notre haut faubourg. Et les cigales ayant l'air de chanter plus fort à cette fête de la lumière revenue. Surtout, il y a la longue prière de Madame Prune, qui d'en bas nous arrive à travers le plancher, monotone comme une chanson de somnambule, régulière et berçante comme un bruit de fontaine. Cela dure trois quarts d'heure pour le moins. Sur des notes hautes, rapides, nasillardes, cela se psalmodie abondamment. De temps à autre, quand les esprits lassés n'écoutent plus, cela s'accompagne de battements de mains très secs, ou bien des sons grêles de certains claquebois qui se composent de deux disques en racines de mandragore. C'est un jet ininterrompu de prières, c'est intarissable, et cela chevronne sans cesse comme le bêlement d'une vieille bique en délire. Après s'être lavé les mains et les pieds, disent les saints livres, on invoquera le grand dieu Amaterasu Omikami, qui est le roi de puissance de l'Empire japonais. On invoquera les manes de tous les défunts empereurs qui dérivent de lui, les manes ensuite de tous ses ancêtres personnels, jusqu'aux générations les plus reculées, les esprits de l'air et de la mer, les esprits des lieux secrets et immondes, les esprits sépulcraux du pays des racines, etc., etc. Je vous estime et vous implore, chante Madame Prune, ô Amaterasu Omikami, roi de puissance, protégez sans cesse votre peuple qui est prêt à se sacrifier à la patrie. Accordez-moi de devenir très sainte comme vous êtes, et faites-moi la grâce de chasser de mon esprit les idées obscures. Je suis lâche et pécheresse, expulsez mes lâchetés et mes péchés, comme le vent du nord emporte la poussière dans la mer. Lavez-moi blanchement de mes souillures, comme on lave les saletés dans la rivière de Kamo. Faites-moi la grâce de devenir la plus riche femme du monde. Je crois en votre lumière, qui se répandra sur la terre et l'éclaircira incessamment pour mon bonheur. Faites-moi la grâce de conserver la santé de ma famille, et surtout la mienne à moi, qui, ô Amaterasu Omikami, n'estime et n'adore que vous-même, etc., etc. Ensuite viennent tous les empereurs, tous les esprits, et la liste interminable des ancêtres. De son fossé tremblant de vieille femme, Madame Prune chante tout cela, vite à perdre haleine, sans en rien omettre. Et c'est bien étrange à entendre, à la fin, on ne dirait plus un chant humain. C'est comme une série de formules magiques qui s'échapperaient, se dévideraient d'un rouleau inépuisable pour prendre leur vol dans l'air. Par son étrangeté même et par sa persistance d'incantation, cela arrive à produire dans ma tête encore endormie une sorte d'impression religieuse. Et chaque jour, je m'éveille au bruit de cette litanie shintoïste qui vibre au-dessous de moi, dans la sonorité exquise des matins d'été. Tandis que nos veilleuses s'éteignent devant le Bouddha souriant, tandis que l'éternel soleil à peine levé envoie déjà par les petits trous de nos panneaux de bois des rayons qui traversent notre logis obscur, notre tendelet de gaz bleu nuit comme de longues flèches d'or. C'est à ce moment qu'il faut se lever, descendre 4 à 4 jusqu'à la mer, par des sentiers d'herbe pleins de rosées, et regagner mon navire. Hélas, autrefois, c'était le chant du muezzin qui me réveillait les matins sombres d'hiver, là-bas, dans le grand Stamboul enseveli. Chrysanthème a apporté peu de bagages avec elle, sachant bien que notre mariage ne durera pas. Elle a placé ses robes et ses belles ceintures dans des petites niches fermées qui se dissimulent contre une des murailles de notre appartement, la muraille du Nord, la seule des quatre qui ne soit pas démontable. Les portes de ces niches sont des panneaux de papier blanc. Les étagères, les compartiments intérieurs, en bois finement menuisé, sont disposés d'une manière trop cherchée, trop ingénieuse, qui éveille des craintes de double fond, de trucs pour jouer des farces. On dépose là les objets sans confiance, avec le vague sentiment que ces armoires pourraient bien d'elles-mêmes vous les escamoter. Parmi les affaires de Chrysanthème, ce qui m'amuse à regarder, c'est la boîte consacrée aux lettres et aux souvenirs. Elle est en fer blanc, de fabrication anglaise, et porte sur son couvercle l'image coloriée d'une usine des environs de Londres. Naturellement, c'est comme chose d'art exotique, comme bibelot que Chrysanthème la préfère à d'autres mignonnes boîtes en lac ou en marquerie qu'elle possède. On y trouve tout ce qu'il faut pour la correspondance d'une mousmée, de l'encre de Chine, un pinceau, du papier de couleur grise, très mince, taillé en longues bandes étroites, de bizarres enveloppes où l'on introduit ce papier, après l'avoir replié sur lui-même une trentaine de fois, et qui sont ornées de paysages, de poissons, de crabes ou d'oiseaux. Sur des lettres anciennes qui sont là, à elle adressées, je sais reconnaître les deux caractères qui signifient son nom, Kiku-san, chrysanthème, madame. Et quand je l'interroge, elle me répond en japonais avec un air de femme sérieuse, « Mon cher, ce sont des lettres de mes amies. Oh, ces amies de chrysanthème, quelles milois elles ont. Il y a leurs portraits dans cette même boîte, leurs photographies collées sur des cartes de visite qui portent au dos le nom d'Uyeno, le bon faiseur de Nazaki. Des petites personnes qui étaient faites pour figurer gentiment dans des paysages d'éventail et qui se sont efforcées d'avoir un bon maintien quand on leur a pris la nuque dans l'appui-tête en leur disant « Ne bougeons plus !» Cela m'amuserait bien de lire ces lettres d'amis et surtout les réponses que leur fait ma mousmé. août. Ce soir, grande pluie, nuit épaisse et noire. Vers 10 heures, revenant d'une de ces maisons de thé à la mode que nous fréquentons beaucoup, nous arrivons, Yves, Chrysanthème et moi, à certains angles familiers de la grande rue, à certains tournants où il faut quitter les lumières et le bruit de la ville pour s'engager dans les escaliers noirs, les sentiers à pic qui montent chez nous à Yūgenji. Là, avant de commencer l'ascension, il s'agit d'abord d'acheter une lanterne chez une vieille marchande nommée Madame Très Propre, dont nous sommes les pratiques assidues. C'est inouï la consommation que nous en faisons de ces lanternes en papier, dont les peintures représentent invariablement des papillons de nuit ou des chauves-souris. Au plafond de la boutique, il y en a des quantités énormes qui pendent par grappes, et la vieille, nous voyant venir, monte sur une table pour les attraper. Le gris ou le rouge sont nos couleurs habituelles. Madame Très Propre sait cela et néglige les lanternes vertes ou bleues. Mais il est toujours très difficile d'en décrocher une, à cause des bâtonnets par où on les tient, des ficelles par où on les attache, qui s'entrechevêtrent ensemble. Par des gestes outrés, Madame Très Propre exprime combien elle est désolée d'abuser ainsi de nos adorables moments. Oh, si cela ne dépendait que d'elle-même, mais voilà, ces choses emmêlées n'ont aucune considération pour la dignité des personnes. Avec 1000 singeries, elle croit même devoir leur faire des menaces et leur montrer le poing à ces ficelles indébrouillables qui ont l'outrecuidance de nous causer du retard. C'est bien, nous connaissons ce manège par cœur. Si cela l'impatiente, cette vieille dame, nous aussi. Chrysanthème, qui s'endort, est prise d'une série de petits bâillements de chat qu'elle ne se donne même pas la peine de dissimuler avec sa main et qui n'en finissent plus. Elle fait une moue très longue à l'idée de cette côte si raide qu'il va falloir cette nuit remonter sous une pluie battante. Je suis comme elle, cela m'ennuie bien. Et dans quel but, mon Dieu, grimper chaque soir jusqu'à ce faubourg, quand rien ne m'attire dans ce logis de là-haut? L'ondée redouble. Comment allons-nous faire? Dehors passent des djinns rapides, criant gare et glaboussant les piétons, projetant entraînés dans l'averse les feux de leurs lanternes multicolores. Passent des mousmés, les vieilles dames, troussées, crottées, rieuses tout de même sous leur parapluie de papier, échangeant des révérences et faisant claquer sur les pierres leurs socs de bois. La rue est pleine d'un tapotement de sabots et d'un grésillement de pluie. Passe aussi, par bonheur, 415, notre cousin pauvre, qui s'arrête voyant notre détresse et promet de nous tirer d'affaire. Le temps d'aller déposer sur le quai un Anglais qu'il roule, et il reviendra à notre secours avec tout ce qui est nécessaire à notre triste situation. Enfin, voici notre lanterne décrochée, allumée, payée. En face, il y a une autre boutique à laquelle nous nous arrêtons aussi chaque soir. C'est chez Madame Leur, la marchande de gaufres. Nous faisons toujours provision chez elle pour nous soutenir pendant la route. Très sémillante, cette pâtissière, et en frais de coquetterie avec nous. Elle forme vignette de paravent derrière ses piles de gâteaux, agrémentées de petits bouquets. Abritons-nous sous son toit pour attendre. Et à cause des gouttières qui tombent drues, plaquons-nous le plus possible contre son étalage de bonbons blancs ou roses, arrangés très artistement sur des branches de cyprès fines et fraîches. Pauvre 415, quelle providence pour nous! Il reparaît déjà, cet excellent cousin, toujours souriant, toujours courant, tandis que l'eau ruisselle sur ses belles jambes nues, et il nous apporte deux parapluies empruntés à un marchand de porcelaine qui est aussi notre parent éloigné. Yves, comme moi, jamais de sa vie n'avait voulu se servir de ce genre d'objet, mais il accepte ceux-ci parce qu'ils sont drôles. En papier, naturellement, à plissures cirées et gommées, avec l'inévitable vol de cigognes semé en guirlandes tout autour. Chrysanthème bâillant de plus en plus à sa manière, chatte est devenue câline pour se faire traîner, essaie de prendre mon bras. Oh, Mousmé, pour ce soir, si tu demandais plutôt ce service à Yves San, je suis sûr que cela nous arrangerait tous les trois. La voilà donc, elle toute petite, pendue à ce très grand, et il grimpe. J'ouvre la marche portant la lanterne qui nous éclaire et dont j'abrite la flamme de mon mieux sous mon extravagant parapluie. De chaque côté du chemin, on entend comme un torrent qui roule, l'eau de tout cet orage dégringolant de la montagne. La route nous paraît longue cette nuit, difficile, glissante, les séries de marches interminables. Des jardins, des maisons échafaudées les uns par-dessus les autres, des terrains vagues, des arbres qui, dans l'obscurité, se secouent sur nos têtes. On dirait que Nagasaki monte en même temps que nous, mais là-bas, très loin, dans une sorte de buée qui semble lumineuse sous le noir du ciel. Il sort de cette ville un bruit confus de voix, de roulements, de gonds, de rires. Cette pluie d'été n'a pas rafraîchi l'air encore. À cause de la chaleur orageuse qu'il fait, les maisonnettes de ce faubourg sont restées ouvertes comme des hangars, et nous voyons ce qui s'y passe. Des lampes toujours allumées devant les bouddhas familiers et les autels d'ancêtres, mais tous les bons nippons ont déjà couché. Sous les traditionnels tendelets de gaz bleu-vert, on les aperçoit, étendus par rangées, par famille. Ils dorment, chassent des moustiques ou s'éventent. Des nippons et des bébés nippons aussi, à côté de leurs parents, chacun, jeune ou vieux, ayant sa robe de nuit en indienne bleue foncée et son petit chevalet en bois pour reposer sa nuque. Il y a de rares maisons où l'on s'amuse encore. De loin en loin, par-dessus les jardins sombres, un son de guitare nous vient, quelques danses incompréhensiblement rythmées dont la gaieté est triste. Voici certains puits entourés de bambous, auprès duquel nous avons l'habitude de faire halte nocturne pour laisser respirer Chrysanthème. Yves me prie de diriger sur lui la lueur rouge de ma lanterne pour le bien reconnaître. C'est qu'il marque pour nous la moitié de la route. Et nous, enfin, voici notre logis. Porte close, obscurité et silence profond. Tous nos panneaux ont été fermés par les soins de Monsieur Sucre et de Madame Prune. La pluie ruisselle sur le bois de nos vieux murs noirs. Avec un temps pareil, il n'est pas possible de laisser ivre des cendres encore pour aller rôder le long de la mer en quitte d'un sampan de louage. Non, il ne retournera pas à bord ce soir. Nous allons le faire coucher chez nous. Sa première petite chambre a été prévue, du reste dans les conditions de notre bail, et nous allons la lui fabriquer tout de suite, bien qu'il refuse par discrétion. Entrons, déchaussons-nous, secouons-nous bien comme des chats sur lesquels une averse est tombée, et montons dans notre appartement. Devant le Bouddha, les petites lampes brûlent. Au milieu de la chambre, la gaze bleu nuit est tendue. En arrivant, la première impression est bonne. Il est gentil, ce logis, ce soir. Il a un vrai mystère à cause de ce silence et de cette heure tardive. Et puis, par un temps pareil, il fait toujours bon rentrer chez soi. Allons vite, faisons la chambre d'Yves. Chrysanthème, très en train à l'idée que son grand ami va coucher près d'elle, y met toutes ses forces. D'ailleurs, il s'agit simplement de pousser dans leur glissière trois ou quatre panneaux de papier qui formeront tout de suite une chambre à part, un compartiment dans la grande boîte où nous logeons. Je les avais crus complètement blancs, ces panneaux, eh bien non. Il y a sur chacun d'eux un groupe de deux cigognes, peintes en grisaille dans ces poses inévitables que l'or japonais a consacrées. L'une qui porte la tête altière et lève une jambe avec noblesse, l'autre qui se gratte. Oh, ces cigognes! C'est qu'elles vous impatientent au bout d'un mois de Japon. Voilà donc Yves, couché et dormant sous notre toit. Le sommeil lui est venu ce soir plus vite qu'à moi-même. C'est que j'ai cru remarquer des regards très longs de Chrysanthème à lui et de lui à Chrysanthème. Je lui laisse entre les mains cette petite comme un jouet, et une crainte me vient à présent d'avoir jeté un certain trouble dans sa tête. De cette japonaise, je me soucie comme de rien, mais Yves, ce serait mal de sa part, et cela porterait une atteinte grave à ma confiance en lui. On entend la pluie tomber sur notre vieux toit. Les cigales se taisent. Des senteurs de terre mouillée nous arrivent des jardins et de la montagne. Je m'ennuie désespérément dans ce gîte ce soir. Le bruit de la petite pipe n'irrite plus que de coutume, et quand Chrysanthème s'accroupit devant sa boîte à fumer, je lui trouve un air peuple dans le plus mauvais sens du terme. Je la prendrais en haine, ma mousse-mée, si elle entraînait mon pauvre Yves à une mauvaise action que je ne lui pardonnerais peut-être plus. Les époux Y et Sikun-san, c'est aujourd'hui le 2 août, ont divorcé hier. Le ménage Charlehen et Campanule marche assez mal. Ils ont eu des difficultés avec ces petits bonshommes en complet de coutil gris, fureteurs, pressurants, insupportables, qui sont les agents de la police. On les a fait chasser de leur maison en intimidant leur propriétaire sous l'amabilité obséquieuse de ce peuple. Il y a un fond de haine contre nous qui venons d'Europe. Et les voilà donc obligés d'accepter l'hospitalité de leur belle-mère, situation bien pénible. Et puis Charles N. se croit trompé. Il n'y a pas d'illusion à se faire du reste. Ces parties que nous a procurées M. Kangourou sont des demi-jeunes filles, si l'on peut dire. Des petites personnes ayant déjà eu dans leur vie un léger roman, ou même deux. Alors, il est bien naturel de se méfier un peu. Le ménage Z et Tukisa ne va qu'à un cas, avec des disputes. Le mien conserve plus de dignité et non moins d'ennui. L'idée de divorcer m'est bienvenue, mais je ne vois guère de raison valable pour faire cet affront à Chrysanthème. Et puis une chose surtout m'a arrêté. J'ai eu des difficultés, moi aussi, avec les autorités civiles. Avant-hier, M. Sucre, très ému, Mme Prune en pâmoison, Mlle Oyuki tout en larmes, sont montés chez moi comme un ouragan. Les agents de la police nippone étaient venus leur faire de grosses menaces pour loger ainsi, en dehors de la concession européenne, un Français morganatiquement marié à une Japonaise. Et la terreur les prenait d'être poursuivis. Humblement, avec mille formes affables, ils me priaient de partir. Le lendemain donc, accompagné de l'ami d'une invraisemblable hauteur qui s'exprime mieux que moi, je me suis rendu au bureau de l'état civil dans le but d'y faire une scène affreuse. Dans la langue de ce peuple poli, les injures manquent complètement. Quand on est très en colère, il faut se contenter d'employer le tutoiement d'infériorité et la conjugaison familière qui est à l'usage des gens de rien. Assis sur la table des mariages, au milieu de tous les petits fonctionnaires ahuris, je débute en ces termes. Pour que tu me laisses en paix dans le faubourg que j'habite, quel pourboire faut-il t'offrir? Réunion de petits êtres plus vils que les portefeuilles des rues? Grand scandale, muet, consternation silencieuse, révérences estomaquées. Certainement, disent-ils enfin, on laissera en paix mon honorable personne, mais on ne demande pas mieux, même, seulement, pour me soumettre aux lois du pays, j'aurais dû venir ici déclarer mon nom et celui de la jeune personne que, enfin, avec laquelle... Oh, c'est trop fort, par exemple, mais je suis venu exprès, troupe méprisable, il n'y a pas 3 semaines. Alors, je prends moi-même le registre de l'état civil. En feuilletant, je retrouve la page, ma signature, et à côté le petit grimoire qui a dessiné Chrysanthème. Tiens, assemblée d'imbéciles, regarde! Survient un très haut chef, petit vieux grotesque en redingote noire, qui de son bureau écoutait la scène.
Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Quelle avanie a-t-on faite aux officiers français?
Je compte plus poliment mon cas à ce personnage qui se confond en promesses et en excuses. Tous les petits agents se prosternent à 4 pattes, rentrent sous terre, et nous sortons dignes et froids sans rendre les saluts. Monsieur Sucre et Madame Prune peuvent être tranquilles, on ne les inquiétera plus.